6, 5, 4, 3, 2, 1.
Extra-muros.
Extra-muros.
Transistor sort de ses murs.
Transistor sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Extra-muros.
Coucou, nous sommes en direct de Douarnenez, le festival du film, avec des invités incroyables pour une petite suite de plateaux finalement avec l'émission qui nous précédait, qui était sur l'habitat. Nous allons continuer à parler de ça avec nos invités du jour qui sont donc Irénée, productrice, comment on dit, pas du tout productrice, réalisatrice, c'est comme ça le vrai mot, comme quoi ma culture cinématographique n'est pas terrible même dans le vocabulaire. Donc tu as réalisé le film Queer Me avec Harmonie, qui peut-être ne parlera pas au micro, mais qui est présentement ici, et avec Pierrot, qui est ici aussi et qui a fait la mission juste avant. Donc on continue, et moi c'est Rita, j'habite à Douarnenez, et je trouvais que ce sujet, Pierrot l'a lancé, et je trouvais que c'était une très bonne occasion pour moi d'inviter donc Irénée, et aussi parce que moi je suis arrivée à Douarnenez, notamment j'ai essayé d'habiter ici et de louer une maison en mettant plein de petits billets dans les boîtes aux lettres, en disant coucou, on est deux chouchous, on cherche un habitat. Ça n'a jamais marché, donc on a ouvert un squat. Et effectivement, ça a déclenché un peu des foudres à Douarnenez, parce que c'était dans un quartier un petit peu riche. Et voilà, ça me tient à cœur de continuer à parler de l'habitat, mais aussi de parler des questions LGBTQIA+, notamment parce que je me sens concernée, mais que aussi j'avais envie de donner une visibilité à ces questions-là, en tout cas ces personnes-là, sur la radio de Vogel les Mouettes durant cette semaine du Festival du Film. Donc on va y aller, on va passer peut-être une petite heure, peut-être moins, ça dépendra de ce qu'on a à se dire. On va faire comme ça une petite émission, comme si on était à la maison. Donc bienvenue, et on commence par une petite virgule.
Vogel les Mouettes, una radio collectiva, associativa, alternativa, chévere. Y muy chévere.
Vogel-lesmouettes.com.
Super, cette petite virgule en espagnol pour t'introduire, Irénée, et que tu veuilles bien nous parler de toi. Qui es-tu donc ?
Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Je me sens flattée. Qui je suis ? Je dois dire qui je suis. Mais je suis une réalisatrice de documentaires espagnols. Et j'ai vécu en Aragon et en Catalogne. Après, je suis venue en France aussi pour les études, parce que les documentaires et les documentaires de création, c'est très apprécié dans ces pays. Et comme je voulais faire ça, et qu'en Espagne, c'est la crise toujours, il n'y a pas de sous et tout ça pour faire ça, ben, je suis venue. Donc ça fait beaucoup d'années que je suis en France. La première fois, c'était en 2007, à Bordeaux. Après, j'ai été à Angoulême. Et depuis 11 ans, je suis à Toulouse.
Ok. Et alors Toulouse ?
Ben, c'est très bien.
Oh ouais.
Je suis aussi allée parce qu'on m'avait parlé d'un squat en non-mixité transpédéguine. Donc c'était à la fois retourner en France pour faire du cinéma, mais aussi pour vivre avec les queers.
Ok. Et donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, imaginons que nous n'ayons pas vu le film, si tu peux nous faire un petit synopsis assez large pour qu'on ait une bonne idée de qu'est-ce qui se passe dans ce film, de ces 10 ans, je crois, d'images, de collecte d'images, finalement d'archives, finalement.
Oui. Moi, j'ai vécu là-bas, du coup, en 2015. Et les images que j'ai prises à l'époque, qui sont déjà des archives, et c'est plutôt l'été de 2015, un peu les années avant, les années après. Après, c'est vrai que j'ai fait un appel à avoir d'archives d'autres photographes ou gens qui avaient fait de la vidéo. Du TDV, du trou des balles, de cette squat, qui du coup il a été squatté en 2009 et il a duré jusqu'à 2019. Mais moi je parle plutôt de quand moi j'ai vécu là-bas. C'est un documentaire à la première personne. Je parle de mon expérience là-bas. Avec les films, je me demande pourquoi j'ai eu envie de vivre dans cette radicalité à un moment de ma vie. Moi j'avais 30 ans à l'époque. Mais c'est vrai que du coup j'avais pas autant que ça d'archives pour faire un film. Donc d'un côté, on a fait une commande à la communauté de dire tous les gens qui ont des images, s'il vous plaît, si vous voulez les partager, on les prend pour le montage du film. Et aussi, on a filmé. C'est-à-dire que je n'ai pas d'archives de 10 ans, j'ai plutôt d'archives de 2015. Et je suis allé filmer mes amis du squat avec lesquels j'ai vécu 10 ans après. Et on s'est dit que ça va être aussi des archives pour plus tard. Donc le film, c'est à la fois mon histoire par rapport à parler de mon genre, ma sexualité, ma famille et les différentes familles que j'ai eues pendant la vie. Et surtout de ce moment du TDV qui a été très, très important pour moi. Et après, j'ai fait des petits portraits aussi de mes camarades du squat, Transpédéguine. Et voilà, c'est un film à la fois intime, politique, qui laisse une trace aussi de cet squat, le TDV, qui a été très important pour la communauté queer féministe.
À Toulouse, ouais.
Un squat avec une piscine, très important aussi.
Ça donne un petit côté idéoniste. À...
C'est ça. Du coup, le TDV aussi, à la fois, c'était un lieu d'habitation et un centre social. Donc ça a permis que beaucoup de culture et d'art transpédéguine se développent. Et aussi beaucoup de relations d'amitié, amoureux. C'était vraiment un lieu expérimental où les queers se retrouvaient. Et voilà, on voyait d'autres gens qui avaient transitionné ou pas, qui étaient d'un pays, d'un autre. Donc vraiment un lieu où avoir des modèles aussi, et se dire c'est possible d'être comme ça, de s'assumer, d'expérimenter, de danser, de baiser. Et les films, c'est vraiment beaucoup d'aller-retour. Il y a moi qui rentre au squat et qui part. Et pendant cette histoire, on va aller voir mon passé en tant que gamine dans un village en Espagne dans les années 80 ou 90, avec la présence de la religion, de la famille, de comment je me suis sentie bizarre à l'école, et comment j'acceptais pas aussi mon homosexualité, et comment le TDV a permis
l'explosion de toi-même.
C'est ça, et la liberté.
Et ce qui donne donc un film assez intime, comme un journal intime, dont tu serais le personnage principal et qui nous dévoile un peu l'univers de ta communauté.
C'est ça.
Bravo, super. En tout cas, moi, j'ai fait à manger sur le festival et il y a beaucoup de personnes qui arrivaient au stand et qui revenaient de ta projection de film et qui avaient des étoiles dans les yeux. Et c'était vraiment très, très plaisant à voir parce qu'on sentait qu'ils étaient émus. C'est un côté hyper positif de ce squat, de la vie queer et tout. Et franchement, je dois avouer que moi, j'ai pas vu vraiment le festival, mais ça m'a vraiment donné envie, en tout cas, d'aller le voir. Malheureusement, il repasse demain, mais apparemment, il est déjà complet. Donc, vivement qu'ils sortent en salle et qu'on se rue là-bas. Et il y a quand même quelque chose qui me pose question. Je me dis comment toi t'as réussi, à pouvoir dire à tes amis et qu'ils aient confiance en toi pour pouvoir rediffuser des images, parce que c'est vrai que dans les milieux communautaires, c'est difficile et il y a eu plein d'histoires, on en connaît plein, dans plein d'autres lieux de squat, de lutte, où en fait les images elles sont détournées. Donc comment t'as réussi en fait à amener tous tes amis en fait, à se libérer devant, parce qu'il y a quand même des images très intimes, quoi.
Mais on a parlé l'autre jour pendant les débats, il y avait aussi une des personnes qui apparaît dans les films, qui est bénévole dans les festivals et qui disait, en fait, Irène n'est pas arrivée comme ça et elle a dit, je veux faire un film et vas-y, on le fait. En fait, on a su qu'Irène, elle avait déjà un parcours de faire des films intimes. J'ai déjà réalisé des films sur ma famille, avec des archives familiales de la famille de sang espagnole. Et j'ai un peu cet instinct ou habitude ou je sais pas quoi de maintenant avec les portables on peut le faire assez facilement. Il y a quelque chose qui me plaît, j'ai sur la caméra et je filme. Et je sais pas pourquoi et je sais pas si ça va être dans un film après, mais au final c'est comme un journal filmé finalement. C'est comme quand tu prends ton journal intime et tu écris, c'est ça avec la caméra. Et après dans les squats, on avait envie de faire des films, c'était pas que moi. Il y avait, je sais pas, 3-4 personnes. On aimerait avoir plus de références cinématographiques queer, on ne les trouve pas, du coup c'est à nous de les faire. Et on s'est posé beaucoup la question, est-ce qu'on les détrace de nous ou pas. On rigolait en disant, en fait la police peut-être qu'il a plus d'images de nous que nous-mêmes, parce qu'il est dans les manifs et tout ça. Et du coup, on a beaucoup réfléchi à ça, on a fait des résidences, on a fait des courts-métrages, on a passé des films queer à Toulouse dans les cinémas. Donc il y avait aussi un peu cette réflexion de... On peut choisir qui on veut, qui voit nos images. On a les droits à ça. Et aussi, on avait envie de dépasser que nos images soient juste pour la communauté queer des squats. Parce qu'au final, quand on... du coup, avant, moi, j'ai fait plutôt de l'autogestion ou de l'associatif. Toutes mes créations, on était soit dans les études ou La Queer Me, c'est pour le coup mon premier film produit. Et depuis les dernières années, je pense qu'on a un peu envie de dire nous, on existe, on est comme ça, respecter comment on est et que les autres puissent le voir, mais ni se censurer, ni cacher les images. Après, c'est sûr que moi, je pense que je l'ai fait avec beaucoup de respect et de consentement.
Oui, c'est ça. C'est que quand tu filmes, tu fais voir les images en demandant aux personnes si elles peuvent être diffusées, j'imagine.
Oui, c'est ça. Déjà, du coup, les gens, je pense, avaient confiance dans ma démarche artistique. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué pendant la fabrication de ces films. Parce que, il y a des gens qui ont transitionné, qui ont changé beaucoup
physiquement.
Et je me disais, je ne sais pas si ils voudront apparaître dans les archives d'il y a 10 ans. Et je pense que c'est des gens qui valorent aussi la lutte TPG. Et en vrai, j'étais surprise parce que je pense que c'était assez touchant. Et qu'ils valorisent aussi, que moi, je les valorise aussi. Comme qu'au final, on parle de cette expérience dans cette squat. Mais en vrai, on parle aussi de la communauté queer. Et ça a fait du bien d'avoir des films faits par des gens de la communauté et pas quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui essaie de comprendre un truc mais qui parfois c'est un peu problématique.
Je sais pas si on peut dire parfois, on pourrait dire tout le temps finalement. Mais c'est vrai que ça arrive très souvent d'avoir des représentations en fait de personnes LGBTQIA+ qui sont pas faites par des personnes qui sont concernées. Du coup effectivement là c'est, je pense d'ailleurs, les étoiles dans les yeux des personnes qui sont pas forcément LGBT, que moi j'ai vu, je me dis oui, c'est ça qui transpire dans le film quoi.
Et qu'au final, je pense, quand vous verrez mon film, que les gens se racontent à soi-même aussi, que je les écoute. Et moi, je parle de mon histoire et parfois je parle des autres parce que c'était mes amis et je veux parler de mon vécu. Mais quand je retrouve les autres, j'ai l'impression que je les laisse aussi la parole et ils s'expriment comme ils veulent.
Ok. On fait une petite pause musicale avec un morceau qui apparaît dans ton film et qui s'appelle El Mundo, qui est fait par une camarade.
C'est une copine chilienne que j'ai rencontrée en France et qui s'appelle Dadalu.
Ok, let's go.
Mundo.
continue avec Irénée, notre invitée réalisatrice de Queer Me. Et on va parler donc de squat. C'est le sujet, la thématique du jour.
Voilà, c'est bon, on m'entend. Oui, du coup, je suis Pierrot. J'ai fait l'émission, enfin, j'ai animé l'émission juste avant qui était sur le logement. Et j'ai vu le film Queer Me et ça m'a particulièrement touchée vu que j'ai aussi un vécu similaire d'avoir vécu dans un squat en non-mixité TPG, du coup transpédéguine. Et voilà, je pense que c'est des choses qu'on vit, des expériences humaines qui peuvent être aussi enrichissantes pour des personnes qui ne sont pas dans la communauté, du fait qu'on apprend à vivre ensemble dans une intensité, qu'on s'accepte aussi dans nos troubles, dans nos particularités. Et bien sûr, c'est jamais tout à fait évident. Et voilà, du coup, pour moi, c'est vraiment très important qu'on ait cette représentation, justement, comme tu disais, parce que ça manque. Et ça me faisait presque bizarre, en fait, de voir quelque chose d'aussi intime que moi je comprends dans mon intimité, en fait, et de voir aussi la réception des autres. Par exemple, je peux te poser cette question, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois la réception de personnes qui ne sont pas dans le milieu, que ce soit le milieu squat ou même dans le milieu TPG, et qui une forme de fascination, enfin, qu'est-ce que t'en penses de ça, comment tu le ressens
quand les gens qui sont pas queer ont vu mon film et ils me disent, mais du coup je pense que ça me surprend, parce que je pense qu'on a toujours une image négative, qu'on nous ne comprend pas, que les gens sont contre nous et tout. Et je me dis, s'ils trouvent ça, ils ont trouvé ça bien et tout, ça me surprend et je suis contente. Après, je me demande aussi vraiment qu'est-ce qu'ils ont compris. Et qu'est-ce qui les plaît aussi? Est-ce que c'est comme, ah, c'était une petite expérience folle, waouh, trop rigolo, tu vois? Ou vraiment, ils ont compris qu'on souffre de la violence, qu'il y a de l'homophobie intériorisée, qu'il y a des violences physiques, parce que dans les films, il y a ça, mais c'est le hors-champ aussi de tout ça, vraiment. Avec Queer Me, je voulais montrer aussi la force du groupe, comment on se donne de la force, la joie, la danse, les fêtes, et la acceptation. Mais je pense que quand même on ressent par comment sont nos visages ou nos corps ou quelques phrases que les personnes disent, que si on est là, c'est aussi une réponse à toute la violence qu'on a vécue à l'extérieur. Et je sais pas, c'est la première fois qu'on le montre, le film ici, c'était la première mondiale. Donc
c'est la première fois d'Arnenez.
D'Arnenez, c'est le premier festival qui a choisi le film. Et pour nous, c'est la première fois qu'on a des retours des gens qu'on ne connaît pas et qui ne me connaissent pas.
Ah oui.
Donc on est très contente et fière et surprise. Et il faut digérer encore tout ça. Mais c'est vrai que déjà que la salle soit pleine avant que les gens savent que c'est ce film, et qu'après, je retrouve des gens de la rue qui m'arrêtent vraiment, qui me racontent des choses détaillées du film et très différentes. Mmh. Parce que dans les films, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de sujets, et après chaque personne, elle est intéressée par différentes choses. Et là, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, ah, votre film m'a plu, et ma fille l'a vu aussi, on pense pas les mêmes, mais elle m'a pas dit pourquoi, et je me demande, bon, votre fille, elle dit quoi, et vous dites quoi? Donc c'est vrai que ça fait plaisir, au moins que les gens écoutent nos témoignages et connaissent nos vies, qui existent et...
Ouais, qu'il y ait une réelle visibilité finalement sur le mode de vie. Et justement, qu'est-ce que pour toi habiter queer, qu'est-ce que ça représente? Parce que tu as dit, ah, moi j'étais pas à l'aise quand j'étais enfant, j'ai refusé mon homosexualité, et du coup ce squat m'a beaucoup aidé. Et peut-être tu peux nous parler un peu de ça.
Oui, du coup je pense que mes parents étaient des gauches et on habitait dans un village plutôt traditionnel, donc déjà on était les différents. Et je ne sais pas comment j'ai commencé à entendre parler des squats. Après, quand j'étais à Barcelone, en vrai, ma socialisation et les loisirs et tout, c'était dans des squats toujours. Et pour moi, c'était là où j'ai socialisé, j'ai rencontré des groupes, des amis. Et voilà, après, il y avait aussi les luttes, les manifs, tout le reste. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je me dis, mais en fait, j'ai traîné dans des squats depuis longtemps. Et je pense que quand j'étais au lycée, quelqu'un m'avait dit qu'il avait habité dans un squat 6 mois, je sais pas quoi, et moi, ça me faisait rêver. J'étais là, waouh, ça serait trop cool de squatter. Mais bon, après, moi, je viens d'une classe moyenne, plutôt intellectuelle. Donc, en vrai, c'est pas comme d'autres camarades qui sont arrivés vraiment pour un besoin presque économique ou quoi. Moi, c'était vraiment politique et idéologique. Mmh. Je vais vivre dans un squat, mais je peux aussi vivre dans d'autres endroits et j'ai le privilège de vivre dans d'autres endroits. Mais je pense que j'avais besoin de... Bah, du coup, quand j'ai entendu qu'il y avait un squat en non-mixité féministe, c'est là où je me suis dit, waouh, la totale. Comme je suis anarchiste, je suis féministe, et il y a un truc qui rejoint les deux. C'est là où j'ai commencé aussi à comprendre qu'est-ce que c'était le mot transpédéguine, en espagnol, du coup.
Oui.
Et ça me faisait rêver de ouf, de me dire, mais en fait, il y a une bulle où il n'y a que des féministes trop classe. Et waouh, pour moi, c'est comme une vie parallèle où on peut faire nos propres règles et vivre comme on veut. Et assez ouvert aussi pour que ça se passe comme ça. Donc quand j'ai rencontré les gens et m'ont proposé de vivre là, j'ai flippé un peu, parce que c'est quand même un milieu où ça peut être assez fermé pour entrer. C'est vrai que moi, c'est des amis qu'elle connaissait qui m'avaient un peu invité à y aller. Donc déjà, il y avait une porte d'entrée facile. Et après, c'est aussi comment toi, tu te sens avec toi-même et prendre la place aussi et tout. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et après, ce n'était pas si idéal que comment je le rêvais. Parce qu'il y a aussi toutes les difficultés. Quand on rentre là, on a aussi à l'intérieur de nous toutes les violences qu'on a vécues aussi à l'extérieur et plein de rapports de pouvoir et tout. Donc, ce n'est pas parce qu'on est là qu'on se transforme et on vit une utopie. Mais on essaye de la vivre quand même. Et voilà. Et du coup, le film, il montre ça aussi, les chocs entre mes idéaux du début et la réalité et comment c'est dur aussi... La vie pour beaucoup de gens, ce n'est pas un milieu homogène. On vient chacune et chacun des endroits très différents. Et bah, du coup, je pense qu'on a beaucoup appris de cette expérience.
Très différent. Oui. Et pourtant, il y a tellement de choses qui nous rapprochent. Quoi. Mmh.
Mais du coup, j'avais une petite question aussi par rapport à ça. C'est en fait, qu'est-ce que ça vous a permis, à toi et aux autres occupants du squat de vivre dans un bâtiment occupé pour justement vous émanciper dans la lutte du coup TPG. Mm. Et peut-être aussi on peut expliquer aux gens pourquoi, si tu as envie, pourquoi vous avez choisi et tu as choisi TPG plutôt que LGBT.
Mm. Si... Bah déjà, de vivre en squat, c'est pas les mêmes lois que quand tu loues quelque chose ou tu achètes quelque chose. Je pense que quand tu es squat, tu sens que l'endroit il est libéré, qu'on peut les transformer physiquement, mais aussi, je pense, après le TDV était aussi spécial parce qu'il y avait une piscine. Et il y avait un grand jardin avec une piscine grande. Et on avait une salle pour faire des concerts. La maison, elle était petite, mais on pouvait mettre des caravanes. Donc, ce n'est pas comme quand tu squattes peut-être une maison en centre-ville ou quoi. C'est que vraiment, on sentait cet espace de pouvoir remplir avec des choses. Plutôt l'été, parce que l'hiver, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, à la fois, c'était un truc matériel, mais aussi symbolique aussi. Et comme ici, on peut faire ce qu'on veut, parce que c'est à personne. Ça nous appartient à nous à ces moments, mais c'est pas à nous. Donc, je pense que c'était vraiment... On pouvait faire ce qu'on voulait. Et les TPG, bah, du coup, de ça, on parle aussi dans les films, surtout avec Clem. Moi, je ne me suis jamais senti reconnue LGBT. Moi, j'ai sorti avant avec des garçons cis et tout. Je ne m'étais pas beaucoup posé la question, je pense. Dans mon village, tout le monde faisait ça. Donc déjà, je l'ai fait un peu tard. Et je l'ai fait parce qu'il fallait le faire et ça ne m'a pas plu. Mais j'ai continué de le faire. Et après, je suis une personne grosse aussi. Donc il y a un truc aussi du corps où tu te sens différent aux autres et tu ne te sens pas bien et tout. Donc je pense que tout ça m'a fait me rapprocher du féminisme, qui prend le corps aussi comme un sujet très important, et que moi, j'arrive au TPG depuis le féminisme. Mais c'est vrai que du coup, par mes questionnements et les films, je me dis, mais est-ce que j'avais déjà de l'attirance pour des filles avant? Est-ce que, voilà, ça me prend un peu la tête et tout ça. Donc, pour moi, ouais, le TPG, c'était des personnes qui ne revendique que le genre ou la sexualité, qui questionne la société et toutes les normes sociales. Et du coup, je me sentais beaucoup plus reconnue dans ces mouvements qui critiquent la propriété privée, la famille, toutes les normes, que plutôt dans un mouvement LGBT qui est, bon, ça c'est très généraliste parce qu'après chacun est comme il est, mais que peut-être, on disait, les LGBT veulent se normaliser dans la société capitaliste et les TPG, ils veulent la détruire en fait.
Ouais, mais du coup, LGBT, c'est plus une... Enfin, ça est plus libéralisé aussi du fait que, avec tout le pinkwashing et la récupération des luttes queer pour nous faire acheter, en fait, nous voir comme une cible marketing. Mm. Du coup, TPG, c'est même pour moi, ça, c'est même plus fort que queer. Enfin, après, c'est différent, mais je veux dire, queer aussi, c'est un mot qui commence à... Enfin, on voit des séries Netflix où il y a le mot queer, je veux dire, ça commence à être quand même un peu libéralisé. Mm. Et du coup, TPG, ouais, c'est peut-être le fond de la lutte, quoi, où il y a, c'est profondément anticapitaliste, ça peut aussi aller vers le décolonial et toutes ces luttes-là, quoi. Mm.
Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé à faire les films, ma productrice, elle est à Poitiers et j'ai passé pas mal de temps là-bas. Et j'avais l'impression comme si transpédéguine n'existait plus, que c'était déjà un mot périmé. Il y a tellement d'identités aujourd'hui que je ne l'entendais plus. Mais moi aussi, j'ai pris du recul aussi par rapport au squat et un peu, bon, pas maintenant, mais pendant un moment, j'étais un peu en distance de tout ça. Et quand j'ai vu à Poitiers après la Pride des tags où il disait transpédéguine, je me suis dit, ben non, c'est pas encore, il est là, on est là et ça fait plaisir.
Ouais.
Ah oui, j'ai l'impression que c'est une grosse discussion, mais enfin, je veux dire, on pourrait rentrer plus en profondeur, mais moi, j'aimerais maintenant aborder peut-être l'histoire du soin, de comment on prend soin. Pour moi, il y a quand même une... Enfin, j'ai vécu dans des squats aussi, j'ai ouvert des squats, et j'ai ouvert des squats mixtes, et je vois bien la différence entre une mixité... de rapports politiques où on est vraiment sur des bases politiques et de lutte, de vivre ensemble, mais il y a quand même pour moi un soin qui est apporté en plus dans la vie TPG LGBTQIA+, qui est une autre façon d'être avec l'autre et dans le soin et de s'accompagner et de faire famille plus je sais pas si on peut dire plus, mais d'une façon plus différente, quoi. Mm-hmm. Ceci ne donne pas une question, en effet. je vous vois me regarder. Et du coup, je me disais, est-ce qu'on peut noter pas différence ouais. Ouais. Ouais, pas facile.
Mais après, si tu veux aussi raconter ton expérience.
Bah justement, tout à l'heure, Pierrot, tu parlais de « on s'accepte avec nos différences et parfois avec aussi nos traumas qui prennent aussi de la place dans nos vies communautaires, politiques. » Et comment, dans des rapports TPG, je vois bien qu'on est plus à l'écoute de mes traumas, de mes ressentis, de mes besoins et ça finit par être un peu général, comme au foyer, comme si au sein de notre famille, on avait vraiment envie de s'accompagner, et comment on arrivait ou pas, hein, parce qu'il y a aussi des moments où on n'y arrive pas, mais comment on y arrive, comment on s'écoute, comment on prend soin des uns, des unes, des autres.
Ouais, ça m'évoque en fait que dans mon expérience, du coup, en étant majoritairement entourée de personnes TPG, LGBT, trans, lesbiennes et PD, que du coup, en fait, ces espaces-là, en tout cas, moi, dans mon vécu, ça, en fait, explose un peu. C'est-à-dire qu'on, comme on vit ensemble, ça, et qu'il y a justement plus de... Enfin, en tout cas, je sentais plus de de place pour ma vulnérabilité, en fait, qu'elle pouvait exister, qu'on n'allait pas me juger de fou aussi facilement qu'en fait dans le monde extérieur, quoi. Et plus avec des personnes qui ont des vécus très, très similaires que les miens, même si très différents aussi. Mais du coup, en fait, après cette explosion un peu, c'était difficile de trouver, de retrouver une réelle solidarité. Enfin, en tout cas, moi, dans mon vécu, c'est que comme on est des personnes dans ces milieux-là qui avons vécu des très gros traumas et qu'on ne peut pas comprendre forcément, parce qu'aussi, il y a une question de classe, une question de race. Enfin, on n'est pas seulement dans... Le genre ne suffit pas à comprendre aussi qui on est. Et du coup, bah, ça permet en fait de s'exprimer, d'extérioriser. Et du coup, moi, personnellement, ça m'a fait évoluer énormément dans mon cheminement personnel, individuel et collectif. Mais également, en fait, il y a se poser la question de jusqu'à où on peut aller, en fait, jusqu'à où on peut faire famille, jusqu'à où on peut être solidaire dans une société individualiste, capitaliste, en fait, qui, dans laquelle on est né et on vit à travers ça. Donc, ouais, c'était un peu un truc aussi très ambivalent pour moi. C'est à la fois des endroits où il y a eu plus de soins que dans d'autres et que j'ai pu être plus moi-même. Et en même temps, bah, il y a une radicalité dans le soin qu'on n'a pas appris et du coup qui est très difficile à appliquer dans les faits. Du coup, voilà, c'est un peu mon ressenti par rapport à ça.
Bon, moi, je pense que... Et que ça a été dit des copines qui sont venues de l'extérieur ou quoi, que c'était par exemple surprise qu'au TDB, on ne se coupait pas la parole. Mais pour nous, c'est normal. Mais c'est vrai que ce n'est pas normal, en fait. Du coup, elles étaient là, ah non, mais quelqu'un parle, et après, fini, et l'autre parle, et tout le monde s'écoute. Et on était là, bah oui. Mais du coup, ça surprend que ce n'est pas normal en dehors de ça. Et bah, je ne sais pas, après, c'est quand même beaucoup de lieux refuges aussi. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent parce qu'ils ont besoin de se reposer, d'être écoutés, de... Et après, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, qu'après, il y a les limites aussi. Par exemple, je pense dans les milieux anarchistes, on est contre les prisons, on est contre la psychiatrie, on est contre la famille, et on est contre tout. Mais quand il y a des problèmes qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, du coup, dans les films, bah, je ne vais pas spoiler, mais il y a une situation qui arrive, et c'est là où je me suis dit, je peux être là, je suis ouverte, je connais plein de gens et des choses, je peux aider si je peux ou quoi, et il arrive des situations que je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas les outils, et on n'a pas développé de façon communautaire des outils pour faire face à des situations qui arrivent de l'extérieur. Et du coup, bah, je veux bien qu'on réfléchisse ensemble, mais il faut que tout le monde ait envie de ça. Et moi, par exemple, dans mon cas, quand je suis arrivée, j'étais très naïf et jeune et avec beaucoup d'enthousiasme. Mais les gens qui habitaient là, ça faisait des années qu'ils habitaient là. Donc, ils partaient. Je voyais qu'ils partaient beaucoup, ils revenaient et tout. Et j'étais là, mais en fait, moi, je pensais qu'il fallait être tous là, tous les temps, pour se répartir des tâches et gérer des choses. Et en vrai, avec les temps, j'ai compris qu'il s'est protégé, en fait. Parce que c'est trop fatigant. Et que moi, comme j'étais en plus dans un autre pays, c'est pas comme si je pouvais aller chez mes potes ou de la famille pour un peu me ressourcer ou me reposer. Bah, moi, j'étais à fond et je voulais tout faire, la révolution, tout de suite. Et en fait, ça m'a épuisé très vite. Et on dirait que j'ai vécu cette expérience pendant beaucoup d'années. En vrai, non, j'ai vécu quelques mois. Et c'était super intense. Et après, j'ai pris de la distance parce que je me suis plongée très vite et noyée. Et... Donc, je pense que oui, c'est des endroits où on s'écoute beaucoup, on parle, on a besoin de ça. Et que parfois, ça serait... Ben après, je pense que c'est un truc de classe aussi qui a la conscience de prendre soin des autres aussi. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas penser qu'à eux-mêmes, en fait, parce qu'ils étaient débordés, dépassés. Il y avait la drogue aussi, tu vois, l'évasion. Et on n'a pas tous les mêmes capacités pour pouvoir faire front à différentes situations.
Ah. un petit blanc radio, une petite virgule peut-être.
.com. Hai sine tira nul faut de tens. L'homme dit rien qu'est.
Un barnum.
N'est pas contents.
Une place.
L'homme dit rien qu'est.
Une radio.
N'est pas contents.
Vos gueules les mouettes. Transistor.
Nous
Youpi, nous sommes bien sur la place du Festival du Film à Douarnenez en semi-direct avec Irénée qui a produit le film Quermi, Pierrot, Rita et peut-être Harmonie. Ouais, on était dans le soin queer, on retourne dans le soin queer. Enfin, moi, ou peut-être encore d'autres questions sur le squat, mais c'est vrai que c'est plutôt ça que j'aurais envie d'approfondir parce que, effectivement, j'ai l'impression qu'on prend soin à se respecter en tant qu'individu avec nos différences et tout ça. Donc, ça met des dispositions d'écoute, de soutien. Et justement, des fois, on a tellement envie de s'aider les unes les autres qu'on peut aussi partir un peu dans le bad et avoir besoin d'un peu de recul. Mais il y a quand même quelque chose qui nous unit très fort et qui fait très lien, notamment parce que dans cette société, on ne s'y retrouve pas et que ça nous fait du lien avec des gens dont on ne peut pas se séparer, quoi. On est liés pour la vie. Et du coup, moi, j'aurais envie de parler de ça, mais je n'ai pas de questions spécifiques. Voilà.
J'ai pas de questions par rapport à ça. Mais du coup, ça me fait penser au fait que aussi... Moi, il y a des personnes, j'ai cru que c'était pour la vie, ça ne l'a pas été. Mais en fait, sur le coup, ça a pu... Parce qu'il y a ce truc de famille choisie qui est très présente, que comme on est beaucoup en rupture familiale, ou quand on n'est pas en rupture familiale, on peut ne pas être tout à fait accepté par sa famille, ou en tout cas, on est quand même dans des temporalités très différentes de notre famille de sang. Et des temporalités, des questionnements, des manières d'être au monde et tout ça. Et le fait d'avoir quand même vécu des ruptures, parce que c'est pas toujours tout rose, il y a quand même des tensions qui peuvent se créer du coup du fait de nos spécificités. Bah, il y a quelque chose qui me rassure, c'est qu'en fait cette famille-là aussi, elle s'extend dans le sens où même des personnes que je connais pas forcément encore, mais qui partagent du coup la transidentité ou l'homosexualité, toutes ces choses-là, d'une manière proche de la mienne, ça va me rassurer sur... Enfin, ça va être des ancrages. Et du coup, ça, je trouve que ça dépasse même des fois des liens individu à individu, quoi. C'est... un collectif qui ne cesse pas de s'expandre, quoi. Et que finalement aussi j'imagine qu'on, en tout cas moi je suis venue à Douarnenez sans penser forcément retrouver des personnes queer, mais en fait c'est une ville où il y a beaucoup de personnes queer et du coup je finis par traîner avec beaucoup de personnes queer, donc c'est un peu tout le temps comme ça dans ma vie, quoi. C'est au final je suis toujours entourée, et même si bon c'est aussi une chance peut-être qu'on a, parce que j'imagine que d'autres personnes peuvent être plus isolées. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça.
Ça me donne envie aussi de parler de la fin du squat, parce qu'en fait le trou de balle est fini. Du coup, comment vous êtes encore en lien ou pas? Comment ça se passe maintenant, quoi, que cet espace indispensable est fermé? Est-ce qu'il y en a un autre qui s'est créé? Comment les gens ils ont réussi à rebondir? Parce que malheureusement, en fait, il y a des expulsions souvent, quand même. Les squats, ça arrive. Hein. Et ça crée beaucoup de tensions, ou en tout cas, ça fait qu'on repart dans la jungle, enfin, ce que les autres appellent la vraie vie, que nous, on trouve que c'est plutôt la jungle. Mais comment on se sort de là sans trop de séquelles? Comment on reste encore dans le soin et on est soudés? Et ouais, comment ça s'est passé pour toi?
Mais nous, du coup, il y a eu une espèce de crise collective à la fin de 2015. Il y avait déjà une personne qui était partie. Bah, du coup, à ce moment-là, il y a deux qu'on est partis et deux qui sont restés, qui se sont dit, OK, maintenant... Parce qu'à un moment, il y avait beaucoup de gens. On hébergeait beaucoup de gens par des urgences sociales, des gens qui arrivaient en mode, je ne sais pas où aller, viens, il y a la place. Il y avait la place pour dormir. Après, je pense qu'il n'y avait pas la place pour l'écoute, les soins. Et tout ce que les gens avaient vraiment besoin. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, ça...
Saturé.
Oui, saturé. Et du coup, ils se sont dit, OK, on reste un peu quelques mois, un peu à porte fermée. On n'héberge plus des gens et on se réorganise. Et après, voilà, petit à petit, il y avait d'autres gens qui sont venus pour vivre et ils ont réouvert encore pour faire des festivals, des fêtes et tout. Et en 2000, bah du coup, à la fin, c'était plutôt des gens qui habitaient, c'était migrants LGBT. Alors qu'avant, on était des TPG plutôt européens. Et du coup, en 2019, les squats est fini. Il y avait une grosse amende qui arrivait, des négociations avec les avocats et tout. Et les deals, c'était si vous libérez, si vous partez de l'espace, il n'y a pas à payer cette amende, qui était au nom d'une personne qui habitait plus là, en plus. Du coup, on a décidé de... Bah, les gens, moi, j'étais plus là, mais les gens ont décidé de quitter les lieux. On a quand même été là pour nettoyer la maison un peu et tout, parce qu'il fallait montrer que personne n'avait vécu pendant 10 ans. Alors que ce n'était pas vrai. On a fait ce qu'on a pu. Et mais là, même là, je me suis dit, pourquoi j'y vais? Ça fait quelques années que j'y vais presque plus. Et même les copines qui étaient déjà à Marseille sont venues aussi. Donc, au final, oui, ça a été un lieu très important pour nous. On a été une famille. Et comme dans toutes les familles, il y a des moments où il faut de la distance. Et après, il y avait des amitiés. Je pense qu'il y avait des... Moi, par exemple, après les TDV, je suis encore allée pour des présentations de fanzines ou des fêtes. Après, j'étais super mal. Parce que j'ai senti que la famille était cassée, qu'on n'était plus comme avant. Et ça fait trop mal quand c'était tes amis, qu'on était très importants pour toi et tout. Après, c'est des gens qui étaient beaucoup dans la fête. Moi, j'avais décidé de quitter un peu la fête aussi. Et je sentais qu'ils m'aimaient juste quand j'ai fait la fête. Mais le temps après, me dit que non. Qu'en vrai, eux aussi, ils ont souffert. Et moi, je ne me rendais pas compte, en fait. Voilà, que cette famille se casse. Et moi, du coup, comme je pense que c'était une expérience qui m'a trop marqué, que j'avais toujours envie de faire les films et tout, bah, j'ai continué des relations d'amitié avec certaines personnes. Mais presque... Tout le monde est parti à Marseille. Et quelques-uns sont restés à Berlin aussi, après à Marseille. Et quelques-uns sont restés à Toulouse. Donc avec les gens de Toulouse, je me croisais parfois dans des événements queer ou quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens où j'étais très proche dans les squats, qui après, non. Du coup, tu te demandes pourquoi. Après, le fait, je pense, de vivre dans un lieu comme ça, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Bah, tout le monde est pote. Et il y a un peu ce truc de « on est queer, on est complice » ou quoi. Alors que non, il y a aussi des gens qui ne t'aiment pas ou des gens qui tu aimes plus. Bon, c'est normal. Et moi, du coup, c'est grâce au film que je suis allé chercher des gens pour dire « Coucou, on a vécu les mêmes trucs ensemble. Est-ce que tu veux parler ?» Et grâce à ça, j'ai relié des relations qui étaient très éloignées. Et je me suis rendu compte qu'on a compté... les uns sur les autres, que c'est qu'on était important les uns pour les autres et que voilà, que là du coup j'ai fait une projection pour les gens qui sont dans les films. Pas tout le monde s'était vu pendant les tournages et c'était super émouvant parce qu'il y avait des gens que ça fait aussi longtemps qu'ils s'étaient pas vus, qu'il y avait des gens qui avaient quand même des embrouilles et que maintenant on arrive quand même à se croiser et à se voir et à pouvoir en parler,
à reparler de ça, refaire des points, à s'excuser.
Oui.
Beaucoup d'excuses, des fois. Bah, de prise de conscience, des fois, c'est un petit peu long. Et puis de...
Oui, que chacun a fait son cheminement, ouais. Cheminement aussi, et que peut-être le fait d'avoir filmé, ça les a replongés aussi dans une histoire que parfois on avait fermé des portes et qu'ils ne voulaient pas les ouvrir. Et là, c'est les débuts, on verra dans un an si, voilà, si on se revoit ou pas. Mais c'est drôle parce que du coup, la plupart sont partis à Marseille. Et quand je suis allée, tout le monde me disait « Pourquoi tu viens plus? Tu viens pas? Quand est-ce que tu viens ?» Et c'était drôle, un peu comme retrouver la famille.
Ça va finir par être un outil thérapeutique au sein de la communauté, quoi. De ce film, en tout cas, il va forcément amener d'autres discussions. Mm. C'est beau.
Il y a des copines qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit « Mais en fait, tu as fait une psychoanalyse collective. Ouais, » Et j'étais en mode « Oui, ça aurait été bien que d'autres le fassent aussi avant, mais bon
!» Là, c'est vrai que c'est inspirant parce que ça se fait... Enfin, ouais, je pense par rapport à mon expérience, personne n'a filmé, quoi. Du coup, c'est vrai que bah, ce truc de porte fermée un peu, de personnes qui préfèrent justement, en fait, fermer cette porte-là pour aller ailleurs et que c'est important aussi de revenir sur qu'est-ce qui a été décisif à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a vécu collectivement, quoi. Mm. Et Et c'est ça qui est transparé dans le film, en fait. C'est aussi toute cette... Enfin, c'est une intensité, quoi. Mais c'est trop beau, quoi. C'est hyper émouvant. Et je pense que c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça peut être aussi un moyen de... Même qui n'ont pas vécu le TDB, de ressentir des choses qui ont été un peu oubliées et de savoir ce qui est encore possible aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi, j'avais une question par rapport à ça. C'est qu'est-ce que tu vois dans... Quelle est ta vision vis-à-vis du futur concernant le logement et la création de ce genre d'espace vu les nouvelles lois anti-squat et aussi la difficulté qu'on a à trouver des lieux pour s'organiser, pour justement vivre tout simplement ce genre de choses. Et toi, quel est ton rapport avec ça? Comment tu vois ça?
Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai découvert, moi je n'ai pas découvert, il existait, mais je veux dire, quand j'ai su que le TDB existait, je me suis dit aussi, en plus, c'est non mixte TPG, et que j'ai l'impression que, bon, j'ai su qu'avant, à Toulouse, il y avait déjà d'autres squats, des PD ou des Queen et tout, que voilà, que le TDB, ce n'était pas les premiers, et ça fait trop plaisir d'entendre ça. Tu dis, ah, un moment, il y avait des squats, des PD, des Queen. Et voilà, que ce n'est pas une expérience juste unique, qu'il y a eu d'autres, et aussi dans d'autres villes et tout. Et moi, c'est le TDB que j'ai connu, donc c'est pour ça que je parle de ça. Mais j'ai observé qu'il y a, par exemple, à Toulouse, après 2015, je ne sais pas, bah, du coup, il commençait à avoir plein de colocs en non-mixité queer. Du coup, c'est une autre chose, on loue, mais les gens, ils veulent vivre quand même dans la non-mixité. Et après, il y a une compagnie de danse aussi qui est en non-mixité. Et y a... Donc, je pense qu'on est comme... Voilà, que ça se démocratise, que parfois on perd un peu de radicalité, mais que c'est trop cool aussi de voir des spectacles de théâtre, des danses, des concerts queer féministes. Et c'est pas pour ça que les squats et les anarchistes queer disparaissent. Il y a aussi ça. Après, c'est clair qu'il y a beaucoup moins de squats parce que la droite et tout ça. Mais bah, je pense que ça va toujours exister parce qu'il y a les besoins, en fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre autrement.
Mmh. Ouais, donc on arrive à rouvrir des lieux de différentes façons. Mais c'est vrai qu'on est quand même très, très attaqué. Enfin, les municipalités, l'État, enfin, on ne peut pas ouvrir des lieux communautaires comme ça aussi facilement, malheureusement. Parce que c'est super d'avoir tous ces bâtiments vides où on pourrait les occuper et faire des choses. Par exemple, cette grosse usine qui est derrière nous, là, qui fait bien rêver. Non, mais c'est vrai qu'à Douarnenez, on a beaucoup de lieux vides. Oui. Et ça, on n'en parle pas tant, alors qu'on manque cruellement d'espace. On est quand même... Et je ne parle pas que pour les personnes LGBTQIA+. Hein. Je parle plutôt de personnes militantes, et pas que. Qu'on manque vraiment d'espace et que et plus ça va, plus les taux se resserrent. Et effectivement, maintenant, il faut qu'on trouve d'autres solutions pour pouvoir... vivre ensemble, faire des choses ensemble, avoir des espaces, et que si on le sait très bien que si on n'arrive pas à faire ça, en fait, on va pas survivre, en fait.
Bah, les TDB, du coup, quand les copines l'ont squatté, elles savaient pas combien de temps ça allait durer. C'est pour ça qu'au début, elles ont nettoyé tout ça, mais il n'y avait pas de grands travaux ni rien, parce qu'elles savaient pas combien de... Et ça, c'est les problèmes des squats, toujours, que ça dure un an, ça dure deux ans, et pas plus. Du coup, avant, tu demandais aussi après qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse, bah, y avait toujours l'Obs. L'observatoire, c'était un gros squat où au début il y avait des gouines et tout, mais c'était en mixité. Et quand les TDB est fermé, en vrai, un peu indirectement, c'est passé à être la maison queer où il y avait des activités, des fêtes et tout. Donc c'était cool, mais ça a fermé il y a deux mois, je ne sais pas. Donc ce lieu qui avait quand même 20 ans de vie, on ne l'a plus. Et après, j'ai essayé par des copines de Barcelone ou d'autres pays. Bah, c'est plutôt des coopératives d'habitation. Mais bon, là, c'est vraiment une autre chose. Il faut de l'argent. Après, c'est trop bien. À Barcelone, par exemple, il y a la Morada. Et ils ont fait construire des bâtiments, un bâtiment où il y a, je sais pas, 15 à part. Et sont toutes gouines et trans. Donc, c'est quand même réfléchir à, OK, on n'est pas en squat, on veut vieillir. On veut pouvoir payer, et c'est la seule façon qu'on voit
d'habiter.
Oui. C'est comme une inversion. Ça ne nous appartient pas, c'est à la coopérative. Peut-être qu'un jour on part, mais il y aura d'autres gens qui viennent. Mais c'est quand même sortir des maisons.
De la propriété privée.
Oui. Et les libérer pour aider à d'autres gens à vivre.
Et moi, c'est ce que je me disais aussi, c'est que à quel point, en fait, toutes ces lois anti-squat et de toute façon, enfin, la répression qu'il y a dans même les ZAD ou quoi, c'est aussi... Enfin, moi, je sens comme aussi une attaque du fait que c'est des lieux où, bah, que ce soit en non-mixité TPG, LGBT ou même mixte, ou même du coup des accueils de mineurs isolés, de migrants, enfin voilà. En fait, c'est des lieux aussi où on apprend à vivre en collectif, ce qu'on n'apprend pas dans notre société, vu qu'on ne connaît même pas notre voisin souvent. Et du coup, c'est aussi un peu, je pense que ça doit faire peur aussi les politiques de droite, justement, qu'on apprenne à faire autrement, qu'on travaille aussi, parce que c'est des lieux de politisation, mais pas que théorique, quoi. C'est, on vit finalement soit des idées théoriques, soit ça nous crée des nouvelles idées pour vivre politiquement, enfin, en tout cas dans un système qui serait pas capitaliste ou en tout cas qui remet en question. Et du coup, ouais, c'est aussi, je pense, un peu la lutte en ce moment, c'est de continuer à avoir ces espaces-là pour nous, pour notre survie individuelle, évidemment, mais aussi pour être de nouveau être fort collectivement, ou de nouveau, enfin, il y a toujours des lieux, hein, mais parfois il y a ce truc aussi où quand un lieu, quand il y a expulsion, comme tu racontais, en fait ça brise les liens aussi, parce que du coup après les personnes doivent trouver un appart, doivent trouver un travail, doivent trouver tout ça, et du coup c'est compliqué en fait de maintenir un lien sur le long terme, et du coup avoir une évolution sur le long terme avec des personnes qui veulent une vie comme la nôtre, quoi.
Mais super, on arrive déjà bientôt à la fin de la mission. Est-ce que des personnes qui n'auraient pas parlé voudraient prendre la parole? Non plus?
Non.
Ok. Eh ben ouais, moi on va se dire au revoir, à moins qu'on fasse on peut faire une petite conclusion, parce que peut-être en tout cas de se dire que notre je sais pas si on peut l'appeler notre marginalité, mais en tout cas notre force de créer et de faire ensemble, elle j'ai l'impression qu'elle disparaît pas comme ça, même si les squats y ferment. En fait, généralement on en ouvre d'autres, on fait autre chose, on arrive à trouver, et même on correspond un peu mieux à ce que l'État nous demande, c'est-à-dire qu'on peut prendre des logements, les acheter et ne pas faire une propriété collective, et quand même continuer à vivre ensemble nos utopies, quoi. Et que ça, on va le faire jusqu'au bout, non? Dites-moi que oui.
Oui, oui, oui.
Youpi. Eh ben, un petit mot?
Peut-être rappeler les trucs de roches blanches.
Ah, la cagnotte des roches blanches.
Je sais pas.
Bah ça, c'est toi qui fais ça.
Oui. Du coup, à Douarnenez, il y a un squat qui est en danger, enfin qui a une menace d'expulsion sur la tête. Et du coup, les habitantes ont décidé collectivement de racheter le lieu parce que le lieu est mis aux enchères. Et que de toute façon, en fait, c'est un lieu qui n'est pas, qui n'a pas vraiment de, personne ne veut vraiment de ce lieu-là, quoi.
Personne ne veut être propriétaire de ce lieu-là.
Oui, voilà, personne ne veut être propriétaire de ce lieu-là. Mais les habitantes des Roches-Blanches ont envie de continuer à vivre, évidemment, dans ce lieu, vu que c'est leur maison. Et pour le futur aussi. Et du coup, c'est un lieu qui accueille aussi des activités, où il y a des ateliers, qui du coup permet aux habitants de la ville de Douarnenez aussi, et du Finistère en général, de faire des projets, de performer des spectacles, de l'art vivant, et voilà. Et du coup, il y a une cagnotte pour racheter le lieu. Et cette cagnotte, elle est accessible sur Hello Asso.
Moi non plus, je ne sais plus le nom de la vie
sur Instagram.
Le sens de la vie.
Le sens de la vie,
Le sens de la vie, du coup, c'est l'association.
comme ça qu'on peut retrouver la cagnotte, en tout cas sur Hello Asso. Si on tape Hello Asso et le sens de la vie, pif, on peut verser 3000 boules.
Voilà, c'est ça.
Et c'est aussi, je crois que c'est important de dire que ça peut être un prêt, mais enfin, ça, si le projet, ça va bien se passer, mais je veux dire, au cas où, on peut récupérer son argent. Je ne sais plus comment on dit un mot pour ça. Mais...
Oui, on peut ça rembourser.
Voilà.
Il y a une petite case où on coche ou pas.
Je donne ou.
Ouais, je donne ou je veux. Si jamais le projet n'aboutit pas.
Voilà. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, ce serait un très mauvais calcul. Moi, je trouve que c'est un très mauvais calcul des politiques. C'est-à-dire que là, il y a au moins 50 personnes qui vivent là-bas. C'est-à-dire que si elles ne vivent plus là-bas, elles ne vont quand même pas toutes partir à Marseille. Hein. Donc, on imagine bien qu'il va se passer des choses dans le centre-ville. Puisque, en fait, c'est ça aussi, de fermer des espaces où, en fait, les gens se réunissent et vivent finalement une vie, somme toute, sympathique et sans déborder sur la ville. Ça veut dire que le jour où t'as pas cet habitat, bah, t'es ailleurs, donc forcément tu bouges le problème, mais le problème est toujours là, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis la plupart des personnes au Roche n'ont pas en fait de seconde maison, enfin, vu que c'est un lieu qui accueille aussi les personnes en précarité. Et justement je suis arrivée au Roche parce que j'étais en précarité et que voilà, enfin c'est un lieu qui peuvent aider beaucoup de gens et qui aide actuellement beaucoup de personnes.
C'est ça, c'est un centre social en fait.
Oui, c'est ça.
Donc un centre social en moins, c'est quand même beaucoup de problématiques en plus pour les gens de la ville finalement. C'est un mauvais calcul, je dis.
Que vous les sachiez.
Ouais. Ayez bien peur. Non seulement elles ne partiront pas, mais en plus, imaginons le pire, et ils seront à côté de chez vous, ce sera pire. Voilà, eh ben, merci en tout cas Irénée d'être venue un peu à la rescousse finalement sur ce plateau organisé à dernière minute. Merci Pierrot, merci Harmonie, merci la technique, parce qu'on a avec Gwenda la technique qui est dans l'ombre mais qui est là avec nous. On a Anaëlle qui a aussi beaucoup participé à toute cette semaine d'organisation de Vos gueules les mouettes sur la place du film de Douarnenez. Et merci à Transistor, c'est ma petite radio préférée, je dois dire que je les aime beaucoup, ils sont super sympas. Et on est très content de faire un partenariat avec LE. Et on se dit à bientôt, peut-être même à très vite à Douarnenez sur une radio un peu pirate. Super.
Merci beaucoup.
Merci. Bye bye.
Vos gueules. Tiret. Tiret. Le mot. .com.